Tamani, voici nos informations en français.
Il est 18h dans ce studio même heure à Kangaba, dans la région de Koulikoro. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Mali accuse la France de soutenir les groupes terroristes. C'est dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité de l'ONU. De Gao à Menaka, la présence des groupes terroristes inquiète les populations. Elles regrettent les menaces d'attaque qui planent sur leur localité. Quatre villages du pays Dogon affectés par la crise seront bientôt réhabilités. Les travaux vont coûter plus de 500 millions de francs CFA. Une réunion s'est tenue à cet effet ce mardi 16 août à Bandiangara. C'était là le sommaire de cette édition. Dans un instant, le développement. Bienvenue à tous à la présentation Hamsitou Touré. Le gouvernement du Mali accuse la France de soutenir les groupes terroristes du pays. Dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité, le ministre malien des Affaires étrangères énumère des actions qui prouvent ce soutien selon lui. Il demande une réunion d'urgence du Conseil sur la situation. Il y a quelques jours, suite à une attaque contre l'armée Atécite au nord du Mali, le gouvernement avait estimé que les assaillants avaient bénéficié de l'appui des forces extérieures. Le point avec Juliette Koulibaly.
La lettre indique que l'espace aérien malien a été violé plus de 50 fois par des aéronefs étrangers opérés par les forces françaises. Ces violations ont été faites entre le 20 avril et 8 août 2022 dans les localités de Gao, Tessit, Gossi, Gundam et Tombouctou, entre autres, précise la lettre. En plus de ces actes, le chef de la diplomatie malienne dénonce le refus d'obtempérer des instructions des services de contrôle aérien. Selon le communiqué, ces violations ont servi à la France de collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et leur fournir des armes et munitions. Le gouvernement dit s'être opposé au soutien aérien de la France à l'AMINUSMA au risque de fragiliser le pays et le Sahel. Les autorités maliennes invitent donc le Conseil de sécurité à œuvrer pour que la France cesse immédiatement ses actions d'agression contre le Mali. Bamako demande aussi à Paris de se conformer à la légalité internationale et respecter les dispositions des Nations Unies. Le gouvernement du Mali prévient qu'il fera recours à l'article 51 de l'ONU, c'est-à-dire la légitime défense en cas de persistance d'atteinte à la stabilité et la sécurité du pays.
Sur le même sujet, la coopération entre le Mali et la France va connaître un autre palier de bruit diplomatique, a affirmé le diplomate Ibrahim Soumaré. Il estime que cette tension va impacter plusieurs domaines de coopération, notamment celui de l'aide financière. Il est joué par Juliette Koulibaly.
Les autorités maliennes vont être très regardantes par rapport à la coopération avec la France, puisque la France est accusée de vouloir déstabiliser notre pays. Je pense que ça risque d'avoir un problème, parce que l'AFD, en général, a un programme au niveau des populations de base, un fonds de l'hydroélectrique villageoise. Dans le domaine économique et financier, nous allons connaître une période de baisse de tension. Alors, pour l'heure, on peut dire que les relations sont carrément dans une situation de brouille systématique et je crois que si jamais les accusations validées par le Conseil de sécurité, ça risque de rendre un retour de relations diplomatiques dans un sens tempéré assez difficile.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je l'annonçais dans les titres, les groupes terroristes font planer des menaces d'attaque sur de nombreuses localités du pays, de Temera à Gao, en Dirabukan, à Nouzagren, à Menaka. La présence progressive de ces hommes armés inquiète les populations. Cette psychose intervient au moment où les forces françaises ont complètement plié bagage du Mali. Après 9 ans de présence, pour des experts, la réorganisation de l'armée malienne doit vite s'accomplir afin de faire face à ces manœuvres terroristes. Draman Maïga pour plus de détails.
À Menaka, les groupes terroristes ont procédé la semaine dernière à l'exécution d'une quinzaine de civils à Essaïlal. À Bourem, les terroristes viennent prêcher régulièrement dans les mosquées, témoignent de nombreux habitants. Les populations de ces localités vaquent à leur occupation avec la peur au ventre.
Avant Tcherny, il y avait des tirs nourris au niveau des différents checkpoints. Ils nous ont fait comprendre qu'ils avaient aperçu des lumières au niveau de la ville, vers 19h30. La population est très calme et elle circule avec la rumeur. Ça vient de quoi?
Ces inquiétudes interviennent au moment où la France a totalement retiré ses troupes du Mali. En plus de la réorganisation en cours, l'armée malienne doit accentuer sa collaboration avec celle des pays voisins, préconise Khadija Keïta, analyste sécuritaire.
Premièrement, il faudrait pouvoir doter l'armée malienne de mécanismes pour pouvoir obtenir des renseignements, notamment aériens, des mécanismes aériens. On sait que ça, c'est un appui considérable que la France, notamment, apportait. D'autre part, il faudrait aussi, en fait, renforcer la coopération avec d'autres pays, notamment frontaliers.
Notons que la France a définitivement retiré ses soldats du Mali après 9 ans d'intervention. Les derniers soldats français de Barkhane ont quitté les territoires maliens ce lundi 15 août 2022.
Autre actualité du jour, vers la reconstruction et la réhabilitation du patrimoine du pays Dogon affecté par la crise. Une réunion du comité de pilotage technique du projet de reconstruction et réhabilitation de ce patrimoine s'est tenue mardi 16 août à Bandiangara. C'était sous la présidence du chef de cabinet du ministère de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. La rencontre avait pour objectif d'annoncer le démarrage des travaux de reconstruction et de réhabilitation du patrimoine de certains villages de la région. Reportage de Adama Djigiba à Bandiangara.
4 villages sont concernés par cette reconstruction et réhabilitation du patrimoine immatériel. Il s'agit de Ogosagu, Sobanda, Djombolo et Tebuguru. Selon Fidel Girou, représentant de l'UNESCO, les populations locales seront impliquées dans la réalisation de ces travaux.
L'approche que nous souhaitons mettre dans l'atteinte des objectifs, c'est d'abord une collaboration saine et participative des populations. Et comment faire cela? Alors, dès le début, nous avons engagé un professionnel du métier, un architecte spécialisé. L'évaluation primaire a été faite en 2019.
Le directeur national du patrimoine culturel assure que le projet ne se limitera pas à ces 4 villages. Des moyens seront mobilisés pour la réhabilitation du patrimoine des autres villages, affirme Moulay Koulibaly.
Le budget dont on a au stade actuel ne permet pas de couvrir l'ensemble des villages affectés par la crise. C'est pourquoi le projet va couvrir les villages de Djombolo, Tegrou, Sobanda et Ogosago. Cela ne veut pas dire que c'est les villages les plus touchés ou les seuls touchés au pays Dogon, mais seulement à cause des contraintes financières que nous avons commencé par là, en attendant de mobiliser d'autres financements pour d'autres villages.
Un sentiment de satisfaction pour Odi Djigiba, chef de village de Djombolo, un des villages bénéficiaires.
Alors nous nous réjouissons aujourd'hui de la mise en œuvre de ce projet de réhabilitation de nos valeurs culturelles, à savoir le patrimoine immatériel. Aujourd'hui, la réalisation de ce projet représente pour nous, population bénéficiaire, un ouf de soulagement.
La reconstruction du patrimoine de ces 4 villages va coûter plus de 500 millions de francs CFA. Elle est financée par Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit Alif. C'était depuis Bandiangara, Adama Djigiba pour Sidio Tamani.
Dans notre série de reportages à l'occasion du 9e anniversaire de Studio Tamani, nous parlons aujourd'hui du fonctionnement de la rédaction de Studio Tamani. Chaque jour, une équipe de journalistes maliens produit 2 journaux traduits en 5 langues. Comment fonctionne donc cette équipe de la collecte d'informations jusqu'à la diffusion? Aboubakrine Ag Mohamedine Yatara nous fait vivre une journée de travail à Studio Tamani.
Bonjour.
À 6h du matin déjà, les présentateurs des éditions matinales de 8h et les secrétaires des rédactions du jour sont sur place. Les secrétaires du jour, Intalla Akbilal, s'assurent que les sujets sont actualisés.
Ces derniers d'abord vérifient les sujets qui ont été préalablement traités. Ensuite, ils font un tour de l'actualité pour voir s'il y a une actualité pertinente à ajouter aux éditions de la matinale. Si c'est OK, ils présentent le journal ou les journaux de la matinale.
Après les journaux du matin, démarre ensuite la conférence de rédaction à 9h15.
Mesdames et messieurs, la conférence est ouverte. Quelles sont vos critiques et observations pour les éditions passées?
La conférence de rédaction réunit journalistes et techniciens. C'est ici que se préparent les éditions du journal. Les secrétaires de rédaction du jour nous expliquent comment le travail est organisé. Intalla Akbilal.
Au début de la conférence de rédaction, il y a une présentation des sujets notés par le secrétaire de rédaction. Ensuite viennent les propositions des sujets des autres journalistes. Tous les angles de traitement, les personnes, ressources, les interlocuteurs sont discutés, choisis librement en conférence de rédaction.
La conférence de rédaction terminée, les reporters partent sur le terrain. Ousmane Nyalibouli fait partie des reporters du jour.
Les sujets qu'on m'a attribués, les interlocuteurs n'étant pas à Bamako, ils sont à Ségou. Je dois appeler le correspondant qui va m'aider à avoir le contact des intéressés. C'est pour parler des élections de la Ligue régionale des Pôles de Ségou.
Adama Haïdra, présentatrice du journal Soreille du jour, s'affaire sur la préparation de sa présentation. Ce travail aussi obéit à des règles.
On attend le conducteur qui est fait par le chef du jour et c'est à partir de là qu'on essaie de voir les éléments qui ont été sélectionnés. Après ça, on essaie de partager avec les différents traducteurs et on fait toujours en sorte d'écouter tous les éléments avant l'heure de la diffusion pour se rassurer que tous les éléments sont là, s'il n'y a pas de dérapage ou autre dans le montage des éléments. Et c'est après qu'on a les chapeaux donnés par un autre journaliste qui est chargé de la coordination générale.
Notons que les programmes des studios Tamani sont diffusés en français, Bambara, Soreille, Tamashek et Peul.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Nous recevons à présent Sékou Gadjigo pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Sékou, quel est le thème du Grand Dialogue de ce soir?
Comment lutter contre la désinformation? C'est le thème de notre grand dialogue de ce soir. Nos invités sont Modibo Fofana, président d'Appel Mali, association des professionnels de la presse en ligne, Tidjani Togola de Tuindi et Fatouma Arber, blogueuse. Ce débat est réalisé en partenariat avec l'initiative Tinyani Maya. Ce sera en Bambara.
Merci Sékou. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.sujotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. Et c'est ce qui met fin à ce journal. La mise en onde a été assurée par Mamadi Keïta. Restez à l'écoute dans un instant. La question A. Les décisions administratives d'interdiction de certaines pratiques sont moins respectées au Mali selon des observateurs. C'est le cas de la décision interdisant la vente de la cigarette en détail ainsi que celle qui vient d'interdire la vente et la consommation de la chicha au Mali. Il en est de même pour celle ayant interdit depuis décembre 2021 la circulation des véhicules avec des plaques d'immatriculation personnelle. Pourquoi donc? Réponse dans ce reportage de Lale Tangara.
Certains observateurs expliquent l'inapplication de certaines décisions au Mali par le fait que des dispositions ne sont pas prises en amont pour sensibiliser la population sur la nécessité et l'utilité de ces mesures. Pour Dr Mamadou Guissé, enseignant-chercheur à la faculté de droit privé, la portée de toute décision doit être connue avant son élaboration.
Lorsqu'on doit prendre une décision, il faut analyser d'abord l'environnement social qui a suscité l'avènement de la décision. Il faut analyser les causes et éventuellement les conséquences, donc la portée de la décision. Analyser l'opportunité ou l'inopportunité de la décision et enfin voir exactement quelle réaction cette décision ou ces décisions peuvent susciter au sein de la société.
De leur côté, certains citoyens estiment que l'inexécution des décisions des autorités s'explique également par leur impact néfaste sur la population. Pour d'autres, l'inapplication est juste dû à un manque de suivi des autorités. Il espère que cela ne sera pas le cas de la décision qui vient d'interdire la consommation et la vente de la chicha sur toute l'étendue du territoire national.
La décision que le gouvernement a prise contre l'affaire des chichas est une bonne chose, car elle est beaucoup consommée par les femmes et les enfants, alors que ça provoque beaucoup de maladies.
Cette décision sera appliquée, mais ça ne durera pas. Je pense que c'est une bonne décision, mais c'est très compliqué pour d'autres, par exemple les vendeurs, parce que ça leur permet de gagner
gagner de l'argent.
Cette décision sera appliquée, mais les autorités doivent assumer leurs responsabilités.
Cet avis est aussi partagé par des sociologues. Dr Yakuba Dogoni soutient que c'est par méfiance que les décisions administratives ne sont pas respectées par la population.
Un manque de suivi de la part du gouvernement et aussi de la méfiance de la population à l'égard du gouvernement. Parce qu'une fois que vous prenez une action de ce genre, il faudra que cette action soit suivie de fait. Mais dans la plupart des cas, le gouvernement se contente de prendre la décision.
Quelles peuvent être les conséquences de l'inapplication de ces décisions sur le pays? Dr Mamadou Guissé, enseignant-chercheur à la faculté de droit privé, donne quelques exemples.
Des perturbations qui peuvent intervenir, parce que souvent, lorsqu'une décision est prise et qu'elle n'est pas opportune ou qu'elle n'est pas comprise, eh bien, ça peut amener des troubles sociaux. Donc, les gens peuvent souvent soit bouder, soit manifester, soit être confrontés aux forces de l'ordre, et donc ça peut amener effectivement un certain trouble à l'ordre social. Donc,
le juriste ajoute qu'une décision ne doit pas être prise par une autorité parce qu'un autre pays l'a fait, mais que les autorités doivent analyser l'environnement et communiquer sur les décisions avec la population afin que cette dernière se soumette à son application.